13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker.
Les courses RMC, Sébastien Darras.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis. On va parler de course hippique, de sport hippique pendant une heure avec Lionel Charbonnier qui est là avec nous, fidèle au poste comme tous les samedis.
Bonjour patron, bonjour à toutes et à tous.
Comment ça va mon Lionel?
Bah je sais pas, je sais plus, je suis désabusé. Dimanche j'ai pris un coup derrière la tête.
Ah je sens que tu vas parler de Bold Eagle, je sais pas
non,
pourquoi.
J'en ai marre. Voilà. Enfin bon, c'est vrai qu'au pays des extraterrestres, l'erreur est humaine, hein. C'est bon.
Non, n'importe quel pays, visiblement. Brahim Asloum nous a abandonnés. Il est dans sa maison au Canada, blotti au fond des bois. Mais Julien Cellier, du Parisien, est avec moi, à côté de moi, à Maison Lafitte.
Salut Seb, salut à tous.
Salut. Ça va Julien?
Impeccable.
Et Kidia, la chaîne du cheval, est représentée comme chaque semaine par notre ami Guillaume Luix. Salut Guillaume.
Salut Sébastien, salut à toute la Dream Team.
Salut Guillaume. Ça te fait salut, plaisir, Guillaume. Tu viens d'apprendre que tu avais encore des amis.
J'en ai très peu, mais ceci me suffit amplement.
C'est beau ça.
J'ai une petite larme qui est en train de couler.
Mieux, on vous attend entre... mieux vaut en avoir peu mais de qualité que beaucoup en qualité insuffisante.
Voilà. Ben, c'est comme, vaut mieux toucher un 2 contre 1 qui gagne qu'un 40 contre 1 qui est 4ème.
Exactement.
Ça s'adapte à pas mal de choses. On vous attend au 32-16, notamment pour jouer au tuyau du parieur ou pour participer à l'émission, nous donner votre avis. Les courses RMC, c'est parti.
Le paddock des courses RMC.
Lionel, on a déjà eu un petit avant-goût, à mon avis, vu ta forme actuelle de ce dont tu vas nous parler.
Ouais, parce que j'ai les boules, tu vois, on m'a cassé mon rêve. Je pense qu'on a aussi cassé le rêve de Bold Eagle,
Entourage. Pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi, champion Bold Eagle, double lauréat du Prix d'Amérique, est parti en Suède la semaine dernière pour courir la course qu'on appelle Elite Lopet, c'est-à-dire un peu l'équivalent de notre Prix d'Amérique à Solvalla dans la banlieue de Stockholm. Et Bold Eagle, le champion imbattable, a été battu puisqu'il est arrivé quatrième de la finale. On le rappelle, hein.
Et c'est ça qui me met les boules.
Ça se court en deux batteries, première batterie qualificative et ensuite la finale. Vas-y.
Voilà. Et c'est ça qui me met les boules parce que ce n'est pas l'Elite Club, ce n'est pas une course comme les autres. On ne peut pas manager, driver Bold Eagle dans l'Elite Club comme on va le driver sur une seule course le Grand Prix d'Amérique par exemple. Donc là, c'est n'importe quoi. On bat les records. On a fait un truc historique. On a battu tous les records de la planète, les machins, sur une demi-finale et à la finale. Il n'y a plus de dégâts et encore, heureusement que c'est un putain d'extraterrestre ce cheval, parce qu'il y en a beaucoup, un qui se serait coupé la gorge comme l'a fait Nuncho, qui n'aurait pas du tout participé à l'arrivée. Il faut savoir quand même que Bold Eagle a battu tous les records, les partiels, les machins.
Allures, ou alors dans des allures proches du chameau. Enfin,
dans les demi-finales. Mais ça sert à quoi de gagner une demi-finale avec 20 longueurs en battant le record de la piste? Expliquez-moi. Ça sert à quoi que la...
Non, mais c'est vrai, ça m'énerve. Tu serais pas en colère contre le pilote?
Un petit peu, parce que Francky, la main froide, il a eu la main trop chaude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es pilote, ok, mais aussi, il faut faire attention, ça reste des sportifs de très haut niveau, les chevaux, je parle des pilotes aussi, bien sûr, mais il faut que le cheval, lui, ne sait pas quelle filière il va utiliser quand on va lui faire... Ça servait à quoi de gagner de 10 longueurs, 15 longueurs, il aurait pu en mettre autant qu'il voulait, de faire descendre, d'utiliser les œillères descendantes, de lui enlever les bouchons pour battre leur corps de la piste sur une demi-finale. Ça sert à quoi? À rien du tout. Ça sert à lui couper la gorge, peut-être à l'écœurer. Et heureusement que c'est un extraterrestre et que moi, je fais confiance à ce cheval et à son entourage pour le remettre. Je pense que je suis pas le seul à être en colère. Je pense que même son entraîneur...
Vu la cote, il y en a quelques-uns qui ont pleuré, oui, tout à fait.
Mais c'est un truc de fou. Alors en plus, pour les parieurs, j'avais oublié les parieurs, excusez-moi, messieurs, dames. Mais en tant que sportif, c'est-à-dire qu'il faut savoir que là-dessus, si on regarde les partiels, Bold Eagle a puisé dans ses réserves au niveau de la vitesse. Son réservoir qu'il avait pour utiliser sa vitesse, il a pratiquement été utilisé en demi-finale. Il faut plus de 12 heures pour régénérer ça. Plus de 12 heures.
Avant de demander l'avis à nos amis, à nos spécialistes, je voudrais simplement rappeler ce qui s'est passé. Donc il y a cette première batterie gagnée par Bold Eagle très facilement, et ensuite il n'est que quatrième dans la finale dont il était l'immense favori. Oui. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Et cette, on va dire, cette colère est logique hein, de Lyonnais, et notamment contre le pilote. Est-ce que c'est la faute de Franck Nivard, selon toi?
Et il est sûrement pas étranger effectivement à la défaite de Boldiguel en finale, d'une part parce dans la batterie il a utilisé tous les artifices à sa disposition, il a débouché les oreilles,
il n'avait pas besoin
des œillères.
On rappelle alors, à nos auditeurs, les artifices c'est pour essayer de
c'est
faire
des aides ouais. Voilà qui peuvent utiliser pour stimuler le cheval dans c'est la phase finale. Donc il y a eu d'abord les œillères, les oreilles débouchées, puis les œillères, alors que manifestement il était au-dessus du lot et qu'il aurait gagné
ça. Il a pulvérisé le record hein.
Il a battu le record de la piste,
en demi-finale,
le record
bravo.
D'Europe en demi-finale.
On est bon.
Après, je pense aussi que le cheval a souffert de son manque d'expérience. Je m'explique, c'est que c'était la première fois qu'il courait en batterie et que il semblerait que le cheval n'ait pas compris qu'on lui demande, après la magnifique demi-finale, de retourner sur la piste 2 heures après.
Explication de Sébastien Garat.
Voilà, tout en sachant qu'apparemment, en plus, le cheval avait été, après la batterie, douché comme après une course normale. Enfin voilà, tout avait été fait pour lui faire comprendre qu'il avait terminé sa journée.
Aïe.
Et on lui a redemandé d'y retourner. Voilà.
Tu sais si on douche les autres chevaux dans ce genre de cas ou pas?
Non, a priori, on les rafraîchit parce qu'il faisait chaud sur Stockholm.
Mais on leur donne pas une douche quand l'exercice est fini.
Voilà. Ou au moins, peut-être pas la première fois. Il y a des chevaux qui sont habitués à courir en batterie. Il y a un Timoko qui a couru 5 fois. Je pense que en étant à Solvalla, il sait que il va retourner au charbon 2 heures plus tard. Là, Bold Eagle, c'était sa première expérience et je pense aussi que ça peut expliquer sa contre-performance. Sachant qu'à mon avis, même un Bold Eagle au sommet de son art aurait eu beaucoup, beaucoup de mal à battre le Lion Timoko en finale.
On va en parler après. Je suis pas loin de l'avis de Julien. Guillaume.
Non, c'est vrai que le cheval, qui est un animal d'habitude, quand on le douche, lui, dans sa tête, c'est fini. C'est-à-dire que quand il prend sa douche, vous savez, on gratte et tout, mais pour lui, son travail est fini. Et c'est vrai que Bold Eagle n'a pas trop compris ce qui se passait, quoi. Tu le douches, il est nickel, il va dans son box, il ressort pour une autre course. Ouais, et c'est ce qui a pu, moi, je partage avec Julien, c'était compliqué pour le cheval. C'est vrai que pour l'entourage, c'était une première fois qu'on attaquait une course comme ça, avec une batterie, avec une finale. Timoko, lui, ça fait 4-5 ans qu'il court en batterie, donc il connaît cet exercice. Bold Eagle ne connaissait pas cet exercice. Et je pense que l'année prochaine, l'entourage aura compris ce qui s'est passé, va tirer l'enseignement de cette défaite pour revenir plus fort en 2018.
Bah j'espère surtout qu'on va gérer cette demi-finale autrement, parce que et que le record on le battra en finale et le record de la piste qui va le battre s'il est géré différemment, qu'on va utiliser moins d'artifices, qu'on va utiliser moins de filières de vitesse lors de la finale, parce que la vitesse il te faut pas 3 heures pour la récupérer, une fois que tu l'as utilisée c'est mort, il te faut 12 heures. Compris ou pas compris, le cheval, c'est pas possible. Même s'il est douché, on lui remettra pas la vitesse et l'ATP, ça se régénère comme ça. Et l'ATP, c'est le cheval,
Lionel,
c'est pareil.
Je sais pas si tu te souviens, mais Timoko en demi-finale, c'était pas glorieux. Il est mauvais troisième, quoi. Tu dis, ça va être compliqué. C'est pas le même cheval en finale qu'en demi-finale.
Exactement.
Par rapport à ça, je suis en partie d'accord avec toi, Lionel, mais. Alors, j'ai entendu un journaliste, que je ne citerai pas, je ne sais pas s'il a envie d'être cité, qui disait, quand tu vas courir en Suède, tu mets un driver suédois. Quand un Suédois vient courir en France, la plupart du temps, ils mettent un driver français. Parce qu'ils connaissent la piste, parce qu'ils connaissent l'exercice. Moi, je vais pas tirer sur Franck Nivard, même s'il connaît les courses là-bas. Il y a eu des erreurs, je pense, du côté de l'entraînement, du côté de l'entourage, du côté du driver. On a eu Sébastien Garato qui nous a fait l'amitié d'être avec nous dans l'émission la semaine dernière, qui nous a dit, et tout le monde peut se tromper, il va être avantagé par ces deux batteries parce que ça va le chauffer. C'est un cheval, on sait aussi les facéties qu'il peut faire avant une course, Bold Eagle. Et je pense qu'ils vont retenir les leçons de cette erreur, qui à mon sens est c'est plein de détails. C'est effectivement le fait que dans la première batterie, ça sert à rien de gagner de 20 mètres, de trotter 8-4 sur cette piste, alors que les autres sont 20 mètres derrière, il aurait pu gagner du minimum. Derrière, doucher le cheval, effectivement. Il y a plein de petites choses comme ça.
Mais toute
Moi,
façon,
je suis persuadé que si l'année prochaine, il revient en Suède, excusez-nous, hein, on a des confrères journalistes un peu bruyants, Patrick Vaugelin, pour ne pas le citer, qui est à côté de nous dans la cabine. Je suis persuadé que s'il revient l'année prochaine, il va les battre.
Mais bien évidemment.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Julien. Je suis pas persuadé que Timoko était battable dans la finale dimanche dernier à Solvalla. Franchement, Timoko, il est resté ferré pour sa batterie. Il est troisième, il aurait pu être quatrième, c'était pareil. Il s'est lancé avec le 5 derrière la voiture. Il a pris un départ. Moi, j'ai rarement vu ça, je vous promets. J'ai rarement vu un cheval démarrer comme ça.
59 km heure au moment où les ailes de l'autostart ont lâché les chevaux.
Je sais pas si les gens... Il aurait pu doubler la voiture, l'autostart.
Il allait quasiment aussi vite qu'un galopeur au départ.
Non, son entraîneur l'a dit, hein. Il a dit, quand il part comme ça, il est irrattrapable. C'est vrai.
C'est à Lyon.
Mais maintenant, alors, c'est vrai qu'il a été géré complètement différemment parce qu'on a joué la place pour la finale dans la première batterie. Or, de l'autre côté. Et donc, derrière, tu vois, moi, je parle plus au niveau physiologique. Et donc, tous les rapports physiologiques de Timoko à la base, quand tu regardes.
Il a fait un hit d'échauffement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Dans la première batterie, il a fait un hit. Voilà. Il s'est échauffé.
Voilà, on a joué à la base, on a dit, puis on verra.
Timoko avait déjà gagné les Lop, il a couru plusieurs reprises. Bold Eagle, sa première, donc il a quand même quelques circonstances atténuantes.
Mais il a plein de circonstances atténuantes.
Je crois qu'il prendra sa revanche.
Oui, oui, mais ça, c'est certain.
Alors après... Et on espère voir Timoko à 11 ans l'année prochaine. Puisqu'on ne le verra pas en France, malheureusement, lors du prochain meeting d'hiver, en tout cas dans la deuxième partie du meeting après le 1er janvier, on espère bien qu'on le verra à Solvala. Comment?
Même dans la première, malheureusement.
Ouais, bah oui, parce que les préparatoires si on veut préparer les Elite Club, peut-être qu'ils pourraient courir des courses. Enfin bon, peu importe.
Alors après, mon Seb, je vais mettre quand même un bémol, hein. Je veux pas monopoliser tout, mais je dis ça exprès pour attirer l'attention parce que n'est pas Franck Nivard qui veut et certainement pas Charbonnier. D'accord.
Voilà. On a affaire à un garçon.
Parce qu'il est extraordinaire.
Qui est hyper disponible à chaque fois.
Il est top.
Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et encore, je suis même pas sûr que ça soit vraiment une erreur. C'est-à-dire que c'est un manque d'expérience.
Pour moi, oui.
Timoko est drivé par Björn Goop. Je pense que Björn Goop, il peut driver la course les yeux fermés. C'est pareil, il saura où est le poteau. Timoko, il sait lire et écrire à Solvala. Il a déjà gagné cette course. Richard Westering savait exactement ce qu'il faisait avec son cheval. Tout l'entourage, et je pense notamment au Rat Sassi, à Jean-Yves Lérété, puisque ce sont des gens qui sont là également à l'année, puisque Timoko est aussi stationné là-bas. C'est du travail d'orfèvre, et Timoko, ce qu'il a fait dimanche dernier, c'est phénoménal. Moi, ça me console.
Et heureusement que c'est lui.
Non, mais c'est ce que j'allais dire. Si jamais c'est pas Timoko qui gagne cette course, on est tous en lambeau pendant 6 mois. Moi, dimanche soir, j'étais un peu amer, effectivement, de la défaite de Bold Eagle, mais j'étais tellement heureux de la victoire de Timoko parce qu'elle est tellement méritée que finalement, ça atténuait un peu cette tristesse. Mais... Guillaume, ton paddock.
On va pas s'éterniser là-dessus. Parce qu'on a vu pas mal de courses, durant le week-end dernier en Suède, et moi ce qui m'étonne un peu c'est qu'on parle beaucoup d'Europe et je souhaiterais vivement une harmonisation des dérèglements, de tout ce qui se passe autour du trot, parce que vous voyez les allures, on juge différemment en France, en Suède, en Allemagne, dans la première batterie Nuncio, il n'y a pas d'allure, en France on va disqualifier, en Suède il n'y a même pas d'enquête, en ce qui concerne les artifices, regardez, dans certains pays, la cravache n'est pas utilisée, les piques en graines sont pas utilisées. On a mis 4000 euros d'amende à l'entourage de Bold Eagle pour une martingale, alors qu'en France, martingale, ça ne pose pas de problème. Donc, il y a vraiment beaucoup de spécificités de pays à pays, et je pense que l'UET devra trancher rapidement pour essayer d'harmoniser tout ça, même pour les parieurs. C'est compliqué pour eux, et dur d'y trouver son latin.
Ouais, je suis d'accord.
4000 euros parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la martingale.
4000 euros.
Tiens, réexplique très rapidement à nos auditeurs, Lionel, la martingale, puisque.
Chez le trotteur, je sais pas trop. Je pense que c'est pour pas qu'il.
C'est la même chose, c'est pour pas qu'il fait, pour pas qu'il lève trop, qu'il lève trop la tête. Ouais. C'est pour qu'il soit bien posé sur son enrênement et que le cheval puisse trotter à sa convenance, quoi. C'est simplement pour ça.
Ouais. Bon, moi, j'utilise souvent ça aussi par rapport à la position des mains du pilote. Alors, je sais pas chez le trotteur si c'est la même chose, je sais pas non plus.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une martingale, il n'y a rien de barbare, hein. C'est un truc assez ordinaire.
Rien du tout.
Mais d'accord. Et pourtant, en Suède, donc, sanction, un petit peu plus de 4000 euros d'amende pour avoir utilisé de martingale.
Ouais, et puis par contre, t'as raison, tu peux trotter sur des allures bizarres, et là, il n'y a rien, là. T'es même pas disqualifié. Il n'y a même pas d'enquête.
Non, ce qui est gênant, c'est qu'on propose ces courses aux parieurs français, et vous voyez, les règlements sont différents d'un pays à l'autre, et c'est comme très gênant, même en Allemagne, on parle pas souvent des courses allemandes qui sont quand même d'une qualité très inférieure aux nôtres, avec des choses qui se passent là-bas qui sont un peu particulières.
Julien.
Eh ben moi, je voulais parler des jockeys qu'on pourrait gentiment qualifier de vétérans. On va avoir l'exemple ce soir au foot d'un futur quadragénaire qui est encore au top niveau avec Gianluigi Buffon. Et aux courses, on a la même chose avec des jockeys qui ont passé la quarantaine et qui sont encore au sommet de leur art. Je pense à l'homme Franco Dettori qui s'est mis en évidence hier à Epsom dans ce qu'on appelle les Aux d'Epsom, qui est un peu l'équivalent du prix de Diane en Angleterre. Et on a en France un Olivier Pellier par exemple qui sera demain en selle sur l'un des favoris du prix du Jockey Club Recoletos, et qui est certes un petit peu moins souvent en piste, mais reste un orfèvre, et ces gens-là prouvent que le génie ne se perd pas avec les années, et je trouve assez remarquable cette longévité au très 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 haut niveau, quoi.
Très haut niveau, effectivement, pour certains jockeys. Voilà, t'évoques quand même Frankie Dettori, qui est une légende dans les courses. Mais on pourrait écrire un livre sur Frankie Dettori.
Évidemment, mais comme on pourrait écrire un livre sur Olivier Pellier aussi, qui est une légende en France.
Enfin, Dettori, c'est hallucinant. Je crois qu'il a eu un accident d'avion à une époque, sorti de l'avion en flamme par
l'avion s'est fait mal, même pas lui.
Non, mais c'est des mecs, je te jure, tu peux faire un film. Tu peux faire un film sur la vie de Dettori, qui s'est fait choper il y a quelques années pour s'être un peu poudré le nez, me semble-t-il, qui derrière est revenu au plus haut niveau. Enfin, c'est des mecs qui ont c'est des mecs qui ont trois vies, quoi.
Précision, Dettori 46 ans, Pellier 44 ans. Pour situer
Bravo les mecs,
effectivement. Messieurs, on va parler de notre quintet dans quelques instants, de Maison Lafitte. Ensuite, on ira faire un petit tour du côté de Chantilly, et même un grand tour du côté de Chantilly, où on sera demain, bien évidemment. RMC vous fera vivre en intégralité cet événement, puisque c'est notre French Derby, le prix du Jockey Club, qui fait partie du championnat des Epic Series. À tout de suite.
Epic Series, le championnat des 14 plus belles courses de France.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Les courses RMC, Sébastien Darras.
Avec Lionel Charbonnier, comme tous les samedis, qui est avec nous.
Présent patron, j'ai craché mon venin, je vais bien, ça y est.
Ça y est, il est détendu. Ouais. Julien Cellier du Parisien qui est à côté de moi.
Présent.
On a Guillaume Luix d'Equilia, on vous attend au 32-16 pour jouer au tuyau du parieur. Avant de revenir à nos chevaux, on va faire un petit point à Roland-Garros sur le match de la Française, Caroline Garcia avec Antoine Arlot. Salut Antoine.
Salut messieurs, ça galope aussi hein, ici à Roland-Garros, c'est notamment pour Caroline Garcia qui est en difficulté face à la Taïwanaise Su Weixie, puisque il y a un set partout entre les deux joueuses pour le moment. On est dans le troisième set, 5 partout. C'est Caroline Garcia qui est au service. Elle est menée 30-15, la Française. Et il faut savoir que celle qui gagnera ce match affrontera en huitième de finale Alizé Cornet, puisque l'autre Française s'est qualifiée il y a quelques instants aux dépens de la Polonaise numéro 10 mondiale, Agnieszka Radwańska.
Ah bien évidemment, tu restes avec nous Antoine. On va suivre ce match. Pour l'heure, on s'intéresse à notre quintet du jour à Maison Lafitte.
RMC, l'invité des courses.
Alors là messieurs, c'est avec grand plaisir que je reçois un homme qui a monté des USA à Hong Kong en passant par la France, où il a tout simplement remporté l'arc. Eric Saint-Martin est avec nous, salut Eric. Bonjour Eric.
T'as eu peur hein?
Oh la fin. Faut pas me faire des blagues comme ça, on est à la radio.
On croyait que t'étais parti avec Brahim.
Ah oui, et Brahim est parti au Canada, on a cru que t'étais parti avec lui. Ça va Eric?
Ça va, c'est actuellement.
Extra, écoute, quand tu es avec nous dans les courses RMC, ça va. Bon, j'ai dépeint un petit portrait très rapide de toi. Alors évidemment, quand on dit Saint-Martin, on pense à la légende. Yves Saint-Martin, qui est ton père, Lionel, pas facile de se faire un prénom quand on s'appelle Saint-Martin, et pourtant Eric.
Ouais, mais lui, il a réussi. Hein. Lui, il a réussi. Il y en a deux, trois qui arrivent. T'as la famille Zidane, t'as la famille Thuram qui commence. Les Noah dans un autre sport. Il y a le père qui était bon au foot, le fils, il a fait un peu de tennis. Voilà, ça arrive de temps en temps. Il faut être costaud dans la tête, et Eric a été très costaud dans la tête. Ça, c'est sûr.
Eric, c'est plus facile aux États-Unis parce qu'on les encourage, les fils d'eux. En France, on les cache.
En France, on n'aime pas trop ça.
Ouais, y a pas mal de choses qui sont différentes. Notamment lorsqu'on parle d'argent. Bref, entraîneur depuis 2 ou 3 ans, Eric, t'as bossé un temps chez Alain Doré-Dupré, il y a quand même il y a pire, avant de passer ta licence d'entraîneur, c'est désormais chose faite, ça se passe pas mal. C'est d'ailleurs, je crois que t'as bien débuté l'année, puisqu'il me semble que ton premier partant, première victoire à Cagnes. Hein.
Ouais, absolument, ouais. J'ai gagné avec une pouliche qui débutait. Ouais.
Festive.
Ouais.
D'ailleurs, pour le même propriétaire que Prince Nomade, qui sera au départ du Quintet cet après-midi.
Oui.
Alors, Prince Nomade, justement, quand je t'ai eu hier au téléphone, tu étais content de voir la pluie. Christophe Soumillon en selle, c'est un cheval qui a une course comme ça dans les jambes, on le sait. Comment tu envisages la course ?
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trains, donc il va pas falloir le monter trop loin. Et puis c'est un cheval qui est mieux dans le terrain souple. Donc comme il avait pas plu depuis pas mal de temps, c'est très bien qu'il ait plu une petite rafale hier après-midi. Donc j'espère que ça va pas être trop léger. Et ça fait tout. Bon souple, tout le monde. Et puis après, voilà, moi j'ai fait mon boulot et après c'est au cheval et au jockey de faire le sien.
Eric, comment t'expliques, Eric, un petit peu ces résultats en dents de scie de Prince Nomade?
C'est un cheval qu'on a amené à Cagnes-sur-Mer pour le Grand Prix, mais on s'est aperçu qu'il n'avait pas tellement la pointure. Et puis ensuite, il a eu un petit coup de mou. Il a couru 3 fois en 6 semaines. Il a eu un petit coup de mou. Et puis écoute, là, il revient bien. Il a l'air de bien revenir. Donc il est mieux qu'il n'a été à Cagnes en rentrant.
Il est peut-être rentré dans sa saison, non?
C'est possible aussi. Moi, c'est un cheval que j'ai récupéré en fin d'année.
Ouais.
Quand j'ai récupéré, on est allé courir à Lyon. Il a fini seconde liste de reste. Et puis après, on est allé à Cagnes. Donc il a peut-être eu une saison un peu compliquée l'année dernière aussi. Et puis bon, il avait besoin de se reposer, tu sais. Mmh. Et donc là, j'ai foutu un peu la paix. Et puis bon, écoute, il a l'air de revenir. Voilà. Mais c'est un chic cheval. Hein.
Bah écoute,
c'est un vrai guerrier.
En tout cas, c'est un cheval qui
après, a la pointure. Après, dans sa valeur, bien sûr, tu vois.
Ouais, mais quand
j'ai une bonne nouvelle pour toi, Eric. 3-7 le terrain.
Ah, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Mais dans la suite, en bord de scène, c'est toujours un petit peu plus souple, donc non, c'est très bien.
C'est exactement ce que j'allais te dire. Annoncer 3-7, donc 3-7 pour nos auditeurs, c'est souple à très souple. Ouais. Sauf qu'effectivement, on est en bord de Seine. C'est une piste qui n'est pas du tout homogène à Maison Lafitte. Donc, ça risque effectivement d'être plutôt très souple en bord de Seine et souple dans la ligne droite. Donc, c'est plutôt bien pour ton cheval.
Bah, tant mieux, il sera plus à l'aise.
Comment ça se passe au niveau de l'entraînement, puisque ça fait quoi maintenant 3 ans hein, que tu t'es installé entraîneur. On a vu la réussite de quelques chevaux cette année. Je pense à Vicenta, je pense à Lightheight, je pense à d'autres chevaux comme ça. Festive, bien évidemment, avec qui tu as tenté ta chance au plus haut niveau. Comment ça se passe au niveau de l'entraînement?
Il fait Falcolina qui m'a gagné mon premier tiercé l'année dernière.
Avec une belle Kazakh, je crois.
Oui, absolument.
Falcolina qui faisait partie hein, de l'écurie RMC. On entend souvent des jeunes entraîneurs dire que c'est difficile dans ce métier. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, c'est très difficile. À partir du moment où vous n'avez pas les chevaux pour, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas des chevaux de Al-Shakab ou de Godolphin, où vous arrivez pour être compétitif dans ces courses, parce qu'on court toutes les mêmes courses, c'est pratiquement injouable. Donc on essaie de faire ce qu'on peut, et évidemment il y a toujours des chevaux de ce calibre pour venir vous battre. Donc de gagner une course, c'est formidable. D'être à l'arrivée, c'est bien aussi, mais c'est dur, quoi. C'est très dur. Moi, j'ai une dizaine de chevaux, donc j'essaie de tourner avec ce que j'ai, en sachant qu'on a toujours un tiers de l'effectif qui court pas parce que des petits bobos, des petites tendinites à droite à gauche, des petits problèmes qui mettent 4 mois ou 6 mois avant d'aller mieux. Donc, non, c'est compliqué, c'est un métier dur.
Moi, j'ai une question à poser à Eric Saint-Martin. Donc, il avait été jockey à Hong Kong. On sait très bien que le nombre de chevaux est limité par entraîneur à Hong Kong. Est-ce que vous seriez sur ce modèle en France, c'est-à-dire limiter le nombre de chevaux à l'entraînement par entraîneur pour laisser la chance à tout le monde, qu'il y ait plus de jeunes entraîneurs qui puissent émerger?
Évidemment qu'il faudrait faire ça. Mais c'est la seule solution pour sauver les courses. Moi, j'arrive de Hong Kong. Ils sont limités par écurie. Les propriétaires ont le droit à 3 chevaux et 3 de plus en association. Mais bon, si vous dites ça aux mammouths en leur disant que voilà, vous allez récolter que seulement 60 chevaux, ils vont tous partir en courant. Mais je veux dire, quand on travaille un cheval pour une casaque, par exemple, pour un jockey club, et qu'on va en courir un, c'est-à-dire que si les autres chevaux sont dans d'autres écuries, pourquoi ils n'auraient pas le droit de courir? Et moi, je pense qu'il vaut mieux avoir 5 agacans et puis 4 godolphin et puis et autres, et que ça, au moins, on n'aurait pas des cotes à 1,50, on aurait des cotes à 5, à 4 ou 5 euros ou 6 euros. Donc les gens, ça inciterait les gens à jouer. Quand vous allez jouer au casino, vous jouez, vous gagnez 36 francs, 36 fois la mise quand vous jouez à la roulette. Donc moi je pense que les courses devraient se restructurer. Encore une fois, c'est pas mon problème, hein. Moi j'ai 52 ans, je n'en ai pas 30. Mais je pense que pour sauver les courses, ça sert à rien de faire des entrées gratuites, de faire des défilés de mode, de faire des de mettre de la musique pendant les défilés, ça fait chier les chevaux et ça fait chier tout le monde. Moi je pense qu'il faudrait vraiment.
Non, mais il a raison.
Moi, je pense qu'il faudrait restructurer. Que vous prenez un directeur pour restructurer Renault, il va faire le ménage et c'est reparti, ça marche. Maintenant, si vous prenez quelqu'un pour jouer du violon, vous allez faire des beaux pas de danse, mais il y aura toujours personne qui viendra. Donc, moi, je pense que c'est la seule solution pour que les courses marchent et tout le monde aurait à y trouver leur marge, le PMU, les impôts et puis voilà.
Et les parieurs, surtout, qui aura, rappelons-le une nouvelle
parieurs,
fois,
mais non, mais
voilà,
ça,
sont
ça,
à la base de la pyramide.
Hein. Ça, de protéger les parieurs, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de course. Donc je ne comprends pas comment on ne puisse pas protéger ça. Hein. Encore une fois...
S'il n'y a pas de parieur, il n'y a pas de course. Et s'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de chevaux. Exactement.
Est-ce que tu as pensé, Eric, fut un temps, ou peut-être ça te trotte dans la tête d'aller entraîner ailleurs?
Et moi, je dis pas ça. Moi, je dis pas ça pour moi, hein, parce que moi, c'est plutôt un passe-temps, une passion, et je ne vis pas du tout de mon travail. Moi, j'ai d'autres activités qui me font rire. Donc, c'est pas du tout. C'est pas ça du tout. Mais pour la structure des courses, voilà, il faut écouter les grands, c'est-à-dire le Japon et Hong Kong. Voilà, c'est tout. Alors on va dire en Angleterre les gens sont joueurs. C'est une mentalité et une culture complètement différente. Mais en France, c'est la seule solution.
Il y a une culture en Grande-Bretagne qu'on n'a pas en France et ça serait bien qu'on l'ait. Peut-être à grand renfort d'éducation, de vulgarisation, comme on essaye de le faire toutes les semaines sur RMC. En tout cas, ça fait du bien, voilà, d'entendre quelqu'un qui pratique pas la langue de bois, Eric Saint-Martin. Donc, pour revenir à ton cheval, Prince Nomade, j'imagine que tu es plutôt confiant cet après-midi, surtout avec le facteur terrain. C'est amusant, c'est un Galiléo. On rappelle que la maman de Galiléo, t'as gagné l'arc avec, hein.
Avec Urban Sea, ouais, qui était par qui a fait donc toute la lignée de Galiléo et
j'ai sa petite fille à la maison.
Ah bien,
c'est vrai.
Bon, en même temps, ils sont pas tous bons, hein. Mais elle a fait comme franchement, elle a fait quelque chose d'exceptionnel, hein, vraiment. Déjà de m'avoir porté jusqu'au poteau, ça a été exceptionnel. Mais ce qu'elle a fait par la suite, c'est
Urban Sea, c'est exceptionnel.
C'est une monstre, de punir, vraiment.
Galiléo et Six Stars, rien que pour ça, pour avoir fait ces étalons-là, et ces champions-là, c'était déjà des champions en piste. Donc Eric, je disais, confiant avec Prince Nomade, c'est logique pour nos auditeurs, avant de te laisser, parce qu'on sait que tu as du boulot.
Mon cheval est très bien, Christophe a souhaité le remonter, il m'a téléphoné pour confirmer, donc moi ça me fait du bien, parce qu'avoir le meilleur jockey du monde sur mon cheval, déjà je m'assois dans les tribunes et je suis rassuré. Mais le cheval est bien, j'ai le terrain bien, voilà, il a tout pour faire feu aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer.
Bah écoute, on l'espère aussi. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, Eric.
Mais on est une bande de potes, donc mais personne ne sait, mais j'ai de travailler en famille.
C'est clair. Merci Eric Saint-Martin en tout
Merci,
cas.
Merci Eric.
À bientôt.
Merci Eric.
Je vous embrasse les gars. À plus tard.
Salut Eric.
Sébastien, précisons qu'on est sur le parcours de Maison Lafitte à main gauche. Hein.
Ouais,
un parcours sur lequel il est compliqué de refaire du terrain. Eric a dit que son cheval était bien, était en forme, pouvait le monter aux avant-postes. Il a son terrain, il a son jockey. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour lui. Et ça s'annonce comme l'un des favoris de la course avec le numéro 2 de Bonalois. Donc sans doute un match Soumillon Boudot. C'est un petit peu tout ce qui se passe depuis quelques jours et jusqu'à la fin de l'année à mon avis.
Eh ben justement, on va faire le papier de ce quintet. On a entendu Eric Saint-Martin, l'entraîneur donc de Prince Nomade confiant. On a Xavier avec nous au 32-16.
RMC, le tuyau du parieur.
Salut Xavier.
Salut les hommes.
Salut Xavier.
Salut Xavier.
C'est vrai que ça manque de femmes. Ça manque de femmes pour ces RMC. Alors, ton favori pour cette course.
Si je peux me permettre deux petits mots, je pense que notre ami aurait été moins énervé, notre ami Lionel, s'il avait été à Solvalla dimanche, parce que j'y étais. Et honnêtement, l'ambiance, ça n'a rien à voir avec les courses de chez nous. Chaque cheval est fêté au défilé. Tout le monde est euphorique pendant les courses. Les Suédois sont des gens adorables. Et vraiment, le fait que Bold Eagle ait perdu, si vous voulez, là-bas, ça n'a pas vraiment fait un drame. Les gens ont supporté Timoko quand ils l'ont vu en tête faire ce démarrage, être tête et corde comme un lion, comme il sait le faire. Et on était désolé hein, pour le grand champion, pour Bold, c'est sûr, hein, moi le premier. Hein. Mais quand on a vu Timoko partir,
mais c'est
comme
ça qui nous, c'est ce qui nous a fait plaisir derrière.
Tout l'hippodrome gueulait comme des fous. Enfin, c'était merveilleux. C'est vraiment une ambiance à vivre qui est incroyable.
Quelle chance t'as eu.
Ouais, bah après, bon, je me suis fait plaisir, hein, c'est vraiment super chouette. Et puis, deuxième petite chose, les gars, ce que vous faites, c'est très important. La vulgarisation, c'est la base, parce que c'est grâce à vous que moi, j'ai décidé de franchir le cap un peu plus loin dans les courses. Je vais commencer mon élevage de trotteur en 2018. J'ai fait remplir les trois poulinières que j'ai achetées cette année. Donc, il y en a encore qui y croient, des passionnés. Les courses, c'est très important, c'est la base. Mais du moment que la passion est là, je pense qu'on peut aller loin dans la vie.
En tout cas, merci de tes encouragements et c'est pour ça qu'on le fait, Xavier. Alors, pour le quintet de cet après-midi, je suis un peu obligé de revenir à nos moutons.
Oui. Alors,
malheureusement, on ne peut pas rester à l'antenne pendant 4 heures.
Alors, j'ai vu que De Bonalois était un peu, pour moi, en surcote. Alors, ça doit être sûrement l'effet PC Boudot, parce que c'est un cheval qui n'est pas vraiment un gagnant. Hein. C'est un cheval qui fait beaucoup de place.
En sous-cote, tu voulais dire, en sous-cote.
Oui, pardon. Qui fait beaucoup de place. C'est pas vraiment un gagnant, ce cheval-là. Bon, c'est un cheval de qualité, c'est certain. Là, il a deux courses dans les jambes, donc c'est peut-être ça aussi qui fait. Moi, je le vois bien. Peut-être pas pour la gagne, mais honnêtement, je pense que ça peut être une base intégrale pour la combinaison du quintet si les gens veulent jouer en multi.
Voir du multi, ouais. Ouais, je suis d'accord.
Pour moi, contrairement à ce que dit Xavier, moi, je pense que c'est une surcote. Moi, je pensais qu'il y aurait 3 ou 4 contre 1, pas plus. Parce que l'autre jour, il était coupé en rondelle à Bordeaux. C'était trop court. Là, c'est plus long, c'est sa bonne distance. Il a tout pour lui. Et moi, je pense qu'il peut gagner ce quintet plus.
La règle pour notre ami Xavier Lionel.
Bah, Xavier a dit dans les 5, hein, donc moi je vais l'écouter, il est sympa Xavier, donc dans les 5.
D'accord avec toi. Bon bah à la semaine prochaine Xavier.
j'espère bien les gars, je vous souhaite un bon week-end.
Toi aussi.
Salut Xavier.
Merci.
Allez, rapide tour de table, on est à la bourre. Lionel.
Allez, moi le 9, Dark Désir. Voilà, même si on parle un peu de sa deuxième course, je pense que c'est un cheval qui court bien frais. Il a sa première course, c'était quand même fin mars. Le cheval court bien frais, issu d'un très bon entraînement. Moi, je le vois participer à l'arrivée. Alors, pas pour la gagne, mais pour être dans les 5.
John Hammond pour l'entraîneur. Julien.
Et Gérard Mossé la monte. Alors.
Ouais.
Moi, je rachèterais Temple Boy, le numéro 7, qui était malheureux le dernier coup à Fontainebleau. S'il a un parcours un peu plus limpide cette fois, à mon avis, il peut largement intégrer la combinaison du quintet.
Temple Boy, 8 contre 1. Guillaume.
Écoutez, on a parlé des principales chances. Moi, j'évoquerais pour la 4-5e place le numéro 12, Speed of Zoo, qui reste sur des performances assez intéressantes, qui est un cheval maniable. Il ne peut pas gagner, mais pour être 4-5e au quintet, c'est possible.
Et moi, ma dernière minute, c'est le 6 Veslov qui a pu nous décevoir un peu lors de ces deux sorties de l'année. Mais c'est un cheval qui sera avantagé hein, par les pluies tombées ces dernières heures en région parisienne. Il vaut une telle épreuve. Il nous l'a prouvé l'année dernière. Donc moi, je le rachète. C'est le numéro 6. On a parlé du 4 Prince Noma, du 2 De Bonalois, du 9 Dark Desire, du 7 Temple Boy et du 12 Speed of Zoo. Messieurs, on s'intéresse dans quelques instants au prix du Jockey Club et à notre quintet de demain sur l'hippodrome de Chantilly. Surtout, ne bougez pas, restez avec nous.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
13h-14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Les courses RMC, Sébastien Darras.
Lionel Charbonnier, évidemment.
Présent, patron.
Julien Cellier, le Parisien, est à côté de moi. Equidia, représenté par Guillaume Rix, comme toutes les semaines.
Oh, je suis toujours présent, je bois religieusement tes paroles, ne t'inquiète pas.
Très inquiet. On vous attend au 32-16 pour jouer au tuyau du parieur. On va faire un petit tour par Roland Garros, bien évidemment, pour faire un point sur le match de la Française. Caroline Garcia, Antoine Arlot.
Ah, elle a du mal à en terminer. Caroline Garcia, toujours, qui affronte toujours cette Taïwanaise Su Weixie, 109e joueuse mondiale, 2-7 partout. On est dans le troisième set interminable, 8-7 pour la Française, et c'est la Taïwanaise qui est au service. 0-30 pour le moment. Donc peut-être qu'enfin Caroline Garcia va en finir dans cette rencontre.
Peut-être un dénouement très proche, bien évidemment. Tu restes avec nous. Nous, pour l'heure, on part à Chantilly.
RMC, l'invité des courses.
Et notre invité est Alexandre Fracasse, entraîneur que l'on connaît bien. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Entraîneur installé non loin de Deauville. Victo Ponfol, si je ne m'abuse.
C'est ça, exactement. Dans à 20 km de Deauville.
C'est ça, dans le Calvados, quel beau pays. Depuis quoi, une vingtaine d'années?
22 ans, exactement, oui.
Oh, c'est tout récent, finalement. Alexandre Fracas, ça se passe pas mal en ce moment. Je pense à la Milva, Equileidi, American Star. Et peut-être demain, dans notre quintet cantilien, avec Touching the Sky, qui portera le top weight dans cette épreuve. Tout à l'heure, on parlait des papys qui faisaient de la résistance. Olivier Pellier est toujours l'un des meilleurs jockeys au monde. Ça ne gâche rien de l'avoir en selle.
Non, ben, j'ai écouté votre émission lors de l'intervention d'Eric. Il disait que quand il avait Soumillon, il n'était pas inquiet quand il le mettait à cheval. Ben, moi, c'est pareil. Quand vous avez Olivier Pellier, quand vous lui donnez la jambe pour monter votre cheval et que vous montez dans les tribunes, c'est quand même très rassurant parce qu'il a tellement d'expérience que voilà, il sait exactement comment faire avec les chevaux. Surtout qu'il la connaît puisqu'il l'a montée la dernière fois. Donc, c'est quand même un plus de la connaître pour demain.
La dernière fois, c'était sur gazon, hein, puisque c'était à Saint-Cloud. Une excellente deuxième place. La PSF lui posera aucun problème, hein, à cette pouliche.
Normalement, non, puisqu'elle a couru trois fois. Elle a deux victoires et une place. Elle est confirmée sur la piste de Chantilly, sur la distance et sur cette surface. Donc, c'est vrai que pour demain, on est assez confiant pour être dans les cinq.
Est-ce que c'est une base pour nos auditeurs, Alexandre?
Bah, écoutez... J'ai étudié la course. Franchement, je pense qu'elle a quand même beaucoup d'atouts demain. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'elle est en aussi bonne forme que la dernière fois à Saint-Cloud. En plus, la dernière fois, elle a été quand même un petit peu malheureuse parce que comme c'est une pouliche qui est très légère, vous voyez, elle fait 402 kilos. Ce matin, elle faisait 402 kilos, ce qui est exactement son poids de forme. Et comparativement à...
Un peu comme toi, Seb.
comparativement à un pur sang standard qui fait plutôt 450 kilos... Voilà, quand elle s'était lancée des boîtes à Saint-Cloud, elle s'est fait bousculer. Et du coup, Olivier a dû reprendre. Elle a été un petit peu malheureuse au moment du démarrage. Mais malgré tout, elle est revenue bien finir. Donc voilà, je me dis qu'avec un bon parcours, elle devrait confirmer cette bonne prestation de Saint-Cloud.
Une question pour toi, Alexandre. On s'est aperçu qu'à Chantilly PSF, c'est compliqué de refaire du terrain. Est-ce que tu penses qu'avec un numéro 6 dans les salles, on peut le monter de façon plus offensive de l'avant ou faut impérativement attendre avec elle?
Non, il faut pas spécialement attendre. Elle a elle a un petit point faible, c'est que d'ailleurs les deux seules fois où elle est pas dans l'argent dans toute sa carrière, c'est les deux fois où elle est restée un petit peu dans les boîtes et de ce fait, elle s'est retrouvée loin. Donc la seule chose que je vais dire à Olivier, c'est d'être très vigilant sortie de boîte parce qu'elle peut rester un petit peu collée et après avec un peloton touffu, bah c'est compliqué hein, de revenir de derrière. Mais si il arrive à sortir normalement, ce que j'espère, et à être au milieu du paquet, voire derrière les leaders, voilà, je pense que si elle a pas trop consommé avec une course régulière, la chance qu'on a, c'est qu'elle a vraiment une très très bonne pointe de vitesse, donc une grosse accélération. Elle met un peu de temps à se mettre en jambe, mais une fois qu'elle est lancée, elle peut vraiment aller vite sur les 200 derniers mètres, et je compte là-dessus pour que demain elle puisse faire une grosse performance.
On a vu d'autres hein, venir même de l'arrière à Chantilly. C'est vrai que c'est pas facile de revenir, mais faire de belles performances sur.
Ouais. C'est pas facile, mais je pense que c'est plus une question de rythme de course en fait.
Oui, bien sûr.
Parce que tous les hippodromes parisiens, il y a des bonnes lignes droites. Bon, moi, je fais aussi beaucoup la province, donc la province, c'est difficile de revenir de derrière parce que souvent vous avez des anneaux avec 250, 300 mètres de lignes droites, c'est difficile. Mais sur les champs de course parisiens, je pense que c'est plus une question de rythme de course que de longueur de ligne droite. Donc, s'il y a du rythme, on pourra toujours revenir derrière. Mais ça, on sait que pendant la course, donc c'est ça qui est difficile. Ouais, et pour se prémunir de ce problème-là, bah, il vaut mieux la monter. En même temps, il y a beaucoup de jockeys qui vont avoir les mêmes ordres, mais il vaut mieux les monter soit derrière leader, soit au maximum dans la moitié du peloton, quoi.
Et Chantilly, de toute manière, c'est pas facile de revenir, même sur la piste en gazon, malgré l'immense ligne droite de 550 ouais. mètres. Un petit mot rapide sur Numération, qui court la septième demain, Alexandre.
Numération, c'est une pouliche qui avait un petit peu de moyens à 2 ans, qui est plutôt sur la pente descendante, qui a des problèmes de santé. Bon, là, elle vient d'être seconde dans un petit réclamé. Je pense que voilà. Si elle est dans les 5, on sera très content. C'est plus un outsider que... Voilà, je vois quand même dans mes deux chevaux, je vois plus Touching the Sky bien, très bien courir et Numération plus pour dans une petite place. Voilà.
Touching the Sky, donc dans le quintet. Vous savez ce qu'on vous souhaite pour cette demoiselle. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Alexandre Fracassin.
Je vous en prie et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir, Alex.
Et bon week-end. Donc Touching the Sky, certainement une bonne base pour établir ces jeux. Petit point très rapide avec Antoine Arlot. Le match est terminé et Caroline Garcia est finalement venue à bout de son adversaire.
Absolument. Caroline Garcia qui en a sué face à Sier, mais elle gagne 6-4, 4-6, 9-7 face à la 109e joueuse mondiale. Elle se qualifie pour les 8e de finale et elle affrontera Alizé Cornet qui s'est qualifiée aussi un peu plus tôt.
J'aurais pu faire un autre jeu de mots qui est un peu moins classe.
Oui, merci. J'y ai pensé aussi.
Merci Antoine. Nous, on revient à nos moutons, enfin plutôt à nos pur sang. Lionel, quintet difficile, c'est dommage que ça soit pas le prix du Jockey Club. Malheureusement, il n'y aura que 12 partants dans le Jockey Club.
12 partants, ouais, c'est dommage.
On va terminer par un petit coup de gueule, tiens.
c'est toi, hein, parce que moi, sinon, on va dire, arrête pas de gueuler, celui-là, il fait chier.
D'habitude, c'est Guillaume ou c'est moi, donc c'est pas grave.
Eh ben, écoute, moi, il a tout dit, Alex. Moi, c'était mon favori, Touching the Sky. J'en fais, pour moi, c'est une base. Je ne vois pas comment il peut pas faire l'arrivée.
Voilà. C'est marrant ce qu'il a dit, hein. Pouliche plutôt légère, mais elle va porter 59, hein.
Ouais, bah t'as des pouliches légères qui sont capables de porter. Et en plus monté par Olivier, je peux te dire tu portes moins de poids quand c'est Olivier qui monte.
Donc non, c'est sûr.
Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas misé sur mon ami Olivier. Donc voilà, pour moi tous les feux sont au vert pour le numéro 2 Touching the Sky.
Ouais, parce qu'on parle du talent d'Olivier Pellier. Olivier Pellier, quand il part au Japon, c'est une idole. Hein. C'est quasiment un dieu. Et le mec reste hyper sympa et hyper disponible. Ça, Olivier Pellier, pour ça, c'est un
extraordinaire.
Exemple.
Il est extraordinaire, comme tous les
Guillaume.
Grands.
Dans le quintet référence de Saint-Cloud 8 mai, j'ai bien aimé le numéro 9 Trésor qui a fait un truc. Je trouve qu'il est pas trop donné, mais à mon avis c'est un tort. C'est un cheval qui à mon avis est appelé rapidement gagner son quintet plus. Et dès dimanche, je lui ai mon confiance. Je crois qu'il y aura 15 ou 20 contre.
On a François avec nous au 32-16.
RMC, le tuyau du parieur.
Bonjour François.
Salut messieurs, merci beaucoup de me recontacter aujourd'hui. Sincèrement Sébastien, suite à l'échange qu'on a eu l'autre jour, je te remercie pour la qualité de ton émission sans langue de bois. Et je m'arrêterai là parce qu'il y a d'autres médias où on se fait des politesses, on se brosse et on se met du cirage jusqu'à luire. Mais là non, bravo pour ton émission.
Merci François. Alors ce quintet de Chantilly, malheureusement je disais pas le Jockey Club.
Bah, pas le Jockey Club, mais un jockey en or, PC Boudot, je pense qu'il va gagner les deux quintets du week-end. L'autre jour, Street of Rio, il a eu le très bon parcours jusque dans le tournant où il y a eu une vague. Il a pris des coups, ça a désorienté le cheval et puis derrière, il a pas insisté. PSF, demain, faut pas chercher plus loin.
Et on le rappelle, hein, Pierre-Charles Boudot qui sera en selle sur De Bonne Alloi aujourd'hui.
Ouais, c'est De Bonne Alloi qui a été écrasé par Christophe Soumillon en entrée de ligne droite à Bordeaux. Je comprends pas pourquoi l'enquête a pour. Il devait pas y avoir de sirène ce jour-là où ils étaient à l'apéro, j'en sais rien. Il s'est passé quelque chose et il aurait dû y avoir enquête. Christophe a coupé les pattes de Pierre-Charles. Mais c'est pas grave, on touchera à Bellecote aujourd'hui.
Il y avait une enquête, mais les commissaires ont maintenu l'arrivée. Hein. Je tiens à le préciser.
Ouais, oui, il y a eu enquête, Guillaume, il n'y a pas de souci, ouais. Mais bon, quand même, tu mets n'importe qui d'autre à la place de Christophe, je pense qu'il y a quelque chose de plus sérieux que ce qui s'est passé. Voilà.
C'était un Kazakh bélingué, donc c'est l'ancien président de France Gallo. Ça peut essayer d'aider en certaines circonstances.
On fait des courbettes, c'est QS Mise, mais bon, voilà.
Oh, c'est bien de finir l'émission. Merci.
Qui fait la chemise.
Allez, la règle pour notre ami François.
François, tu dis qu'il va gagner. Allez, dans les trois.
Pas de soucis.
C'est de Sofrio.
Il est chaud. Hein,
François.
Il est chaud, bouillant.
Il voit Pierre Charles gagner les deux quintés. Merci en tout cas.
Moi, je lui fais confiance.
À samedi prochain.
Salut François.
Salut mon gars.
Salut François. Je sais plus où j'en suis. Julien.
J'aime bien un petit cheval qui va débuter dans la catégorie des handicaps. C'est le 11 Champs Brasileiro. 3 courses, 3 fois à l'arrivée. Il me semble très correctement placé au poids. À mon avis, il peut se révéler dans cette catégorie.
Donc c'est le numéro 11 Charms Brasileiro. Moi, je vous conseille Argentique. Je vais rester fidèle à ce numéro 3 que je vous avais déjà conseillé. Last Touching the Sky, le 9 Trésor, le 4 Streets of Rio, le 11 Charms Brasileiro et le 3 Argentique pour ce quintet. Merci Julien.
Et bien avec plaisir Sébastien.
À la semaine prochaine. Merci Guillaume.
Salut, bon week-end à tout le monde.
Merci à nos auditeurs, fidèles au poste. Et merci à toi, Lionel. On se retrouve samedi prochain, bien évidemment.
Bah oui.
13h, 14h dans les courses RMC. Pour l'heure, c'est Christophe Cessieux qui lui aussi est fidèle au poste. Il y a du pain sur la planche, Roland Garros, il y a du hand, il y a de la voile, il y a du foot. Mais Christophe Cessieux est pluridisciplinaire.
Ah ben, bah, il sait tout faire. C'est ça. C'est le couteau suisse. Ah oui, mais commenter un quintet, je sais pas encore. Mais il faudrait que tu m'apprennes quand même.
Ça va tarder.
Un jour viendra. Effectivement, gros programme cet après-midi. Avec notamment en point d'orgue la demi-finale de Ligue des Champions de handball. Le PSG Hand affronte Vesprem. Ce sera tout à l'heure à 15h15. On n'oublie pas non plus le match de tennis, si la pluie le permet, à Roland-Garros entre Gasquet et Monfils. Deux Françaises viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale. On en parle dans quelques instants avec Eric Salio et Florence Serra. Voilà le programme.
13h, 14h, les courses RMC.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker.